Afrique.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir le monde aujourd'hui, Eric Manilakidze avec vous. Bienvenue dans cette édition du mercredi 23 mars 2022. Au sommaire, au Mali, 16 soldats maliens tués lundi dans deux attaques imputées aux djihadistes. Et dans l'est du Burkina Faso, un soldat tué dimanche dans l'explosion d'un engin artisanal. Un précédent bilan faisait état de 5 morts. En Somalie, au moins 3 morts dans une attaque des Shebab à l'aéroport de Mogadiscio, le lieu le plus sécurisé du pays. Le président américain Joe Biden est en route pour l'Europe. Il doit participer demain à un sommet extraordinaire de l'OTAN face à la Russie. Dans 10 minutes, vous suivrez également l'économie et les sports. Mais d'abord le journal. La CEDEAO organise vendredi au Ghana un sommet extraordinaire sur la situation au Mali et a invité le chef de la junte malienne, le colonel Assimi Goïta, à participer. La CEDEAO conditionne une levée progressive des sanctions économiques et diplomatiques qu'elle a infligées au Mali le 9 janvier à la présentation par les autorités maliennes d'un calendrier acceptable pour la tenue d'élections pour amener les civils au pouvoir. Au Mali, 16 soldats ont été tués lundi dans le centre et l'est du pays dans deux attaques, dont une a été revendiquée par l'organisation État islamique. Selon un nouveau bilan de l'armée, le précédent bilan faisait état de 4 soldats tués. L'armée a indiqué avoir neutralisé 37 terroristes. Nathalie Barge.
À Tessit, à quelques dizaines de kilomètres des frontières avec le Burkina Faso et le Niger, un poste militaire a été attaqué lundi. À Boni, une patrouille est tombée dans une embuscade selon l'armée. Les forces armées maintiennent leur dynamique offensive de recherche et de destruction des terroristes et de leur sanctuaire en application du plan Maliko lancé en décembre, indique l'armée malienne dans un communiqué, assurant avoir depuis tué des dizaines de djihadistes. De son côté, le groupe État islamique dit avoir tué et blessé des dizaines de soldats au cours de l'attaque à Tessit, dans un communiqué publié par son agence Amaq. Les djihadistes affirment avoir pris le contrôle total du camp de Tessit avant de l'incendier et d'emporter 7 véhicules et des munitions. 27 soldats ont été tués le 4 mars dans l'attaque de leur camp à Mondoro, dans le centre du pays. C'était l'opération la plus meurtrière contre les forces maliennes depuis plusieurs mois. L'armée a affirmé avoir éliminé au moins 70 combattants ennemis.
Au Burkina Faso, le pays des hommes intègres, 11 soldats ont été tués dimanche lors du passage de leur véhicule sur un engin explosif improvisé dans l'est du pays, près des frontières du Ghana et du Togo, a indiqué l'armée hier soir. Les détails avec Gini Kapumbu-Villa.
Dans un communiqué, les forces armées affirment qu'une attaque complexe dans les environs de Napad a eu lieu dimanche au cours de laquelle 11 soldats sont tombés. Un précédent bilan faisait état lundi de 5 soldats tués dans cette explosion. L'armée burkinabé a également été endeuillée dimanche par une autre attaque, toujours dans l'est du pays, qui a fait 13 morts. Les unités ont réussi à neutraliser au moins 36 terroristes, affirme le communiqué. Il y a eu plus de 60 victimes civiles et militaires en moins de 2 semaines dans le nord et l'est du pays. Après avoir renversé en janvier le président Roch Marc Christian Kabore, accusé de laxisme face à la violence djihadiste, le nouveau chef de l'État, le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba, se retrouve confronté au même problème. La semaine dernière, l'armée a reconnu une légère dégradation de la situation avec la persistance des attaques contre les populations et la dégradation d'infrastructures électriques et de téléphonie mobile.
En Somalie, l'aéroport de Mogadiscio a de nouveau été visé par une attaque qui a fait au moins 3 morts et 7 blessés. La majorité des victimes sont des membres des forces de sécurité. Les islamistes Shebab ont revendiqué l'assaut, n'est-ce pas, Abdelrahman Dia?
Une employée d'un restaurant au sein de l'aéroport dit avoir vu un soldat ougandais et un policier somalien mort, ainsi qu'un civil. Ce bilan est confirmé par la police. Toutefois, le nombre de victimes peut être plus élevé en raison du nombre de personnes restées dans la zone lorsque les hommes armés sont arrivés. Deux d'entre eux ont réussi à pénétrer ce matin le périmètre de l'aéroport, réputé pour être le site le plus sécurisé de la Somalie. L'attaque a duré environ 45 minutes avant que les assaillants ne soient abattus, selon plusieurs témoins. Le groupe islamiste des Shabab a revendiqué cette attaque visant la base militaire d'Alan. Située dans l'enceinte de l'aéroport, ce complexe héberge les bureaux de l'ONU, la base de l'AMISOM, ainsi que plusieurs missions diplomatiques dont celle du Royaume-Uni et des États-Unis. La Somalie, et particulièrement sa capitale Mogadiscio, ont été ces dernières semaines le théâtre de multiples attaques, alors que le pays attend depuis plus d'un an l'élection d'un nouveau président.
Trois employés du gouvernement ougandais, dont Richard Kigwe, un des principaux géologues du pays, et deux militaires ont été tués par des hommes armés dans la région riche en minerais de Karamoja, ont indiqué mercredi des responsables militaires. Les pays de la Troïka, qui réunit le Royaume-Uni, la Norvège et les États-Unis, parrain historique de l'indépendance et important bailleur de fonds du Soudan du Sud, ont condamné mercredi les attaques signalées contre des bases de l'opposition par des troupes loyales au président. De tels incidents et des cycles de violence qui en résultent posent un risque de violence accrue dans le pays, dit un communiqué publié mercredi. Dans l'est de la RDC, des carcasses de véhicules calcinés, maisons incendiées, villages fantômes, c'est le spectacle sur l'axe routier Beni Komanda. Théâtre d'attaque et embuscade meurtrière des rebelles ADF sur cette route stratégique pour les échanges commerciaux entre les deux provinces. Des rebelles du groupe ADF commettent depuis 2014 des exactions d'une extrême violence. Un important incendie a endommagé mercredi l'un des principaux ponts de Lagos, la capitale économique du Nigeria, détruisant des dizaines de commerces, ont déclaré les secours et des témoins. Cet incendie qui s'est déclaré dans la matinée survient au moment où le Nigeria fait face à des pannes d'électricité massives qui, conjuguées à une flambée des prix des carburants, accablent les ménages et entreprises de la première économie d'Afrique.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'offensive russe en Ukraine s'enlise malgré toutes les destructions qu'elle provoque jour après jour, a estimé mercredi le chancelier allemand Olaf Scholz. Kiev reste un objectif de l'armée russe, mais celle-ci est bloquée ces dernières semaines au nord-ouest et à l'est de la capitale ukrainienne, affirme le maire Vitali Klitschko. Le point des derniers développements avec Yacouba Ouedraogo.
La cible de l'agresseur est la capitale de l'Ukraine, déclare Vitali Klitschko, maire de Kiev. Il y a toujours beaucoup d'attaques venant du nord et de l'est, explique l'ancien champion du monde de boxe. Monsieur Klitschko a ajouté que la localité de Makarif, dans l'ouest, et la presque totalité d'Irpin, dans le nord-ouest, sont toujours sous contrôle des soldats ukrainiens. Les zones d'Irpin et de Liutij ont été ce mercredi le théâtre d'intenses échanges d'artillerie. Le président Volodymyr Zelensky s'est adressé aux députés de l'Assemblée nationale française et doit s'exprimer devant un sommet de l'OTAN demain jeudi à Bruxelles. Kiev, qui a reçu des livraisons d'armes anti-chars et anti-aériennes des Occidentaux, les appelle à livrer des armes offensives. Le président Joe Biden se rend en Europe pour assister au sommet extraordinaire de l'OTAN. Il va aussi rencontrer les dirigeants du G7 et ceux de l'Union européenne. Il se rend vendredi en Pologne.
Le gouvernement américain a établi que les membres des forces russes ont commis des crimes de guerre en Ukraine, a affirmé mercredi le secrétaire d'État américain Antony Blinken, précisant qu'il reviendrait aux tribunaux de déterminer les responsabilités juridiques. L'OMS a appelé mercredi à relever massivement l'aide humanitaire en Ukraine dans les prochaines semaines. Elle a également appelé à l'arrêt des attaques contre le système de santé, affirmant n'avoir authentifié 64 jusqu'à présent. L'ancienne secrétaire d'État américaine Madeleine Albright, première femme à occuper ce poste au sein du gouvernement américain, est morte mercredi à l'âge de 84 ans, a annoncé sa famille dans un communiqué. Chef de la diplomatie entre 1997 et 2001 dans l'administration du président démocrate Bill Clinton, Madeleine Albright s'est éteinte des suites d'un cancer, précise ses proches qui saluent une défenseure infatigable de la démocratie et des droits humains. Ici aux États-Unis toujours, la juge africaine-américaine Ketanji Brown Jackson s'est vigoureusement défendue mardi face aux accusations de laxisme et de gauchisme portées par des élus républicains lors de l'examen au Sénat de sa candidature à la Cour suprême. Le sénateur Ted Cruz l'a accusé d'avoir tout au long de sa carrière milité pour les prédateurs sexuels et retenu des peines inférieures aux réquisitions dans 100% des dossiers de pédopornographie qui lui ont été soumis.
Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Dans votre actualité économique en Afrique et ailleurs, ce soir, nous retrouvons Nathalie Barge pour la Minute Éco.
Lors d'une conférence de presse à Dakar, Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine, a appelé les partenaires internationaux à aider l'Afrique à faire face aux conséquences de la guerre en Ukraine en lui réallouant les droits de tirage spéciaux des pays riches. Monsieur Sall s'exprimait en présence du président de la Banque mondiale, David Malpass. Les DTS, monnaie créée par le FMI, peuvent être accordées directement aux pays membres qui peuvent les utiliser pour ajuster leurs réserves monétaires. L'Afrique du Sud a allégé les restrictions anti-Covid. Les personnes vaccinées ou qui ont un résultat négatif sont autorisées dans les stades et les salles de concert, a déclaré le président Cyril Ramaphosa. Avec des changements qui entrent en vigueur ce mercredi, presque toutes les restrictions sur les activités sociales et économiques auront été levées, a-t-il déclaré. À l'occasion de la Journée mondiale de la météorologie, l'ONU lance un plan de couverture pour que tout le monde bénéficie d'un système d'alerte sur les phénomènes météo. En Afrique, 60% de la population en est privée. Ce plan est estimé à 1,5 milliard de dollars, un faible coût au regard des dégâts provoqués par les catastrophes naturelles, estime l'ONU. Selon l'Organisation météorologique mondiale, ces systèmes offrent l'un des retours sur investissement les plus élevés de tous les projets d'adaptation liés au changement climatique.
Et sans transition, nous retrouvons Yacouba Ouédraogo dans votre page des sports. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. Coup d'envoi ce mercredi des préliminaires des éliminatoires de la prochaine CAN Côte d'Ivoire 2023. 10 sélections entrent en lice un mois et demi après le sacre du Sénégal à la CAN 2021. 0-0 entre les Seychelles et le Lesotho. L'Eswatini a disposé de la Somalie 3-0. Le Soudan s'est imposé 4-2 devant Djibouti. Suite au retrait de l'Érythrée, le Botswana est qualifié d'office pour la phase de groupe des éliminatoires. Il rejoint ici les 42 autres sélections qualifiées d'office pour la phase éliminatoire en poule. Les 24 nations qui se qualifieront pour la phase finale se disputeront la succession du Sénégal en Côte d'Ivoire du 23 juin au 23 juillet 2023. Des pépins pour le Cameroun à deux jours des barrages du Mondial 2022 Zone Afrique. Muninga Maleu, l'ailier camerounais des Young Boys de Berne, a déclaré forfait et a été remplacé par l'ailier du club local de Coton Sport de Garoua, Soyibou Marou, qui va honorer sa toute première sélection. En plus de lui, le milieu de terrain André-Franck Zambo Anguissa, blessé, ne sera pas là pour la double confrontation contre l'Algérie les 25 et 29 mars prochains. Mardi, le portier titulaire André Onana a été victime d'un accident de circulation de voiture entre Douala et Yaoundé, mais a rejoint ses coéquipiers à Douala. Ici, en NBA, les Milwaukee Bucks avec Gianni Antetokounmpo, de retour, remis d'une blessure à un genou, ont fait mordre la poussière aux Chicago Bulls, qu'ils ont écrasé 126-98 avec 25 points de leur star grec. Cette probante victoire permet aux Bucks de consolider leur deuxième place dans la conférence Est. En Floride, les Golden State Warriors ont essuyé à Orlando leur troisième revers consécutif face au Magic, vainqueur 94-90. Trae Young s'est distingué dans les rangs d'Atlanta en inscrivant 45 points permettant à son équipe de s'imposer 117-111 contre les New York Knicks. Toujours ici aux États-Unis, les gouverneurs républicains de l'Indiana et de Utah ont posé leur veto à des lois visant à interdire aux filles transgenres de participer aux compétitions sportives féminines dans les écoles de leur État. Les auteurs de la loi estiment que cela pose un problème d'équité sportive. Après un examen attentif, je n'ai pas trouvé de preuves étayant ces présomptions, explique Eric Holcomb, qui dirige l'État de l'Indiana dans le Midwest. Politiquement, il serait plus simple pour moi de signer la loi, mais j'ai toujours essayé de faire ce qui est juste, écrit Spencer Cox, gouverneur de Utah, dans l'Ouest, notant que seuls 4 enfants transgenres, dont une fille, sont inscrits dans des clubs sportifs scolaires dans le Utah cette année. Ces arguments n'ont pas touché les parlementaires locaux qui ont l'intention de voter ce vendredi pour surmonter leur veto.
C'était les sports signés Yacouba Ouedraogo. Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. De retour avec vous, Eric Manirakiza. Place au dossier du jour. Le Forum mondial de l'eau soutient cette semaine au Sénégal dans un contexte où le liquide précieux cause d'énormes soucis aux ménages sénégalais. Depuis des mois, plusieurs quartiers de Dakar sont privés d'eau, d'autres n'en ont qu'en pleine nuit. À cela s'ajoute une hausse vertigineuse des factures qui est toujours non résolue malgré les plaintes des populations. De notre correspondant à Dakar, Seydina Abagay.
Des bouteilles, des seaux et des bassines entourent une pompe publique où des hommes, des femmes et des enfants attendent leur tour auprès du vieux qui fait office de caissier pour s'approvisionner en eau. Nous sommes aux parcelles assainies à Dakar et les habitants n'ont pas d'eau. Ibrefal témoigne.
Nous vivons un manque d'eau considérable vu dans nos communautés parce que souvent dans la journée il y a pas d'eau. Nous sommes obligés d'aller dans les pompes pour avoir de l'eau pour se laver, souvent pour laver nos habits, pour la cuisine, tout ça. Nous sommes obligés. C'est très écœurant vu le sommet de l'eau qui se tient ici alors que le pays a un manque considérable et continu d'eau.
Le cas des parcelles assainies n'est pas un cas isolé. Le constat est le même à Yoff, un quartier huppé de la capitale sénégalaise. Mami Fall vit un calvaire. Depuis plusieurs jours, l'eau ne coule plus au robinet.
C'est une situation vraiment stressante, fatigante, surtout quand tu dois te lever le matin pour aller travailler. Quand tu as des enfants qui doivent aller à l'école. Parce que nous, la population sénégalaise, on a de plus en plus de difficultés pour pouvoir avoir de l'eau, surtout pendant la journée. On est obligé d'aller vers les pompes, etc. Et c'est pas de l'eau propre aussi. Pour avoir de l'eau propre, on est obligé de se lever pendant la nuit. Et des fois, même tu te lèves sans pour autant avoir de l'eau.
En plus de ces difficultés à trouver le liquide précieux, les populations font également face à une hausse des factures. Une situation incompréhensible pour Boubacar Mbaye, habitant de Yarakh Magasin. À
Dakar. Nous nous réjouissons de l'organisation du Forum mondial de l'eau au Sénégal, mais il faut reconnaître que Dakar, qui accueille la manifestation, a des problèmes d'eau qui commencent à durer. L'eau est coupée tout le temps. Au 21e siècle, nous Sénégalais avons des problèmes d'eau. En plus, on t'amène des factures très chères pour un locataire et ce n'est pas normal. Je peux pas comprendre, notre dernière facture est de 25 000 francs alors qu'on n'a pas d'eau. Comment peut-on amener une facture aussi salée à des gens qui n'ont pas assez d'eau? C'est grave et il faut vraiment y remédier.
Face aux nombreuses plaintes des usagers, la société d'exploitation et de distribution de l'eau a assuré qu'il n'y avait pas de hausse. De son côté, le ministère de l'eau et de l'assainissement a promis un audit pour permettre aux Sénégalais d'être édifiés. En attendant des solutions, c'est toujours le calvaire pour les populations privées d'eau. Seydina Abagay à Dakar pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
Au Cameroun, le gouvernement et le PNUD, Programme des Nations Unies pour le Développement, veulent réduire la pauvreté à la base. Les deux partis ont lancé une initiative baptisée sous Programme de réduction de la pauvreté à la base. Plus de 20 000 personnes ont déjà vu leurs conditions de vie s'améliorer en milieu rural. De Yaoundé, la correspondance de Emmanuel Juntap.
Au Cameroun, 9 pauvres sur 10 résident en milieu rural, d'après la quatrième enquête auprès des ménages, qui a révélé en août que le taux de pauvreté en milieu rural s'est accru, passant de 55,7% en 2007 à 56,8% en 2014. pour faire baisser cette tendance, le gouvernement a décidé, depuis 2013, de faire des interventions directes au profit des personnes vivant en milieu rural. Marie-Paul Nanga, une bénéficiaire, est responsable d'un groupe d'initiatives communes au village Bama 3, dans la région de l'Est.
Je vends le pistache, je vends le planteur, l'enfant part à l'école sans difficulté.
Adamu Ratioso, un autre bénéficiaire, est basé dans l'arrondissement de Niabaka, dans la région de l'Adamawa.
Ça nous a permis de transformer notre manioc en farine. Avant, on allait très loin pour aller se servir. Et maintenant, on se sert nous-mêmes. C'est les gens qui viennent pour qu'on les serve.
Le sous-programme de réduction de la pauvreté à la base vise la création d'emplois au niveau communal, le renforcement des filières porteuses de croissance. Grâce à ces financements, Mina Saint-Fort est promoteur d'un secrétariat bureautique dans la commune de Ngoura, à 434 km de Yaoundé, dans une partie du Cameroun où l'accès à l'outil informatique est encore difficile.
La mise en place de ce secrétariat bureautique a permis aux autorités qui se trouvent résidentes à Ngoura même de ne plus se déplacer pour aller faire les différentes activités, par exemple dans une localité très rapprochée de celle de Ngoura même.
L'accès au financement de 30% des hommes et 40% des femmes en milieu rural a été possible entre 2013 et 2022. Alain Martin Otiomoti Mbita, directeur national du sous-programme de réduction de la pauvreté à la base au ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire.
Le Minepat a ouvert des lignes de crédit de plus d'un milliard 12 millions de francs CFA auprès des établissements de microfinance. Il s'agit des crédits à taux bonifié. L'État supporte les intérêts. Les bénéficiaires ne remboursent que le principal.
À travers des centres d'écoute et d'orientation dans les communes, les projets sur l'élevage, l'agriculture, l'aquaculture ou l'artisanat sont sélectionnés. Cette initiative vise à terme la création de 3200 emplois pour les jeunes, 3300 emplois pour les femmes de plus de 15 ans. Yaoundé, Emmanuel Jumtap, VOA Afrique.
Abdourahman Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, l'accès à l'eau potable en Afrique dans un contexte de changement climatique. Le 9e Forum mondial de l'eau se tient du 21 au 26 mars à Dakar sur le thème « La sécurité de l'eau pour la paix et le développement ». Alors qu'en Amérique du Nord, un habitant a accès en moyenne à 250 litres par jour, dans le Sahel, le ratio est d'une personne pour moins de 10 litres. Comment résoudre la question de l'accès à l'eau potable en Afrique? Comment éviter qu'il ne soit source de conflits entre pays ou entre communautés? Rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et voaafrique.com.
Dans l'est de la République démocratique du Congo, la RDC, des conflits entre agriculteurs et éleveurs sont fréquemment signalés dans les territoires de Rutshuru et Nyiragongo dans la province du Nord Kivu. Le manque de pâturage et le bétail qui détruit les champs conduisent souvent à de violentes altercations. Le reportage de notre correspondant à Goma, Zanem Neti Zaidi.
Il est 9h du matin à Rutshuru. Bawere Bouzigué, un agriculteur de la chefferie de Bouicha, est venu déposer une plainte. 50 mètres carrés de son champ, des soja ont été dévastés par des vaches.
Mon problème est lié à la dévastation de l'ensemble de mon champ par des vaches errantes. Ici, dans notre région, les éleveurs qui n'ont pas d'endroit pour faire paître leurs animaux les laissent errer dans les champs des autres. J'ai perdu un champ de soja juste à côté du bureau de la ville.
Lorsque de tels désagréments surviennent, les éleveurs et les agriculteurs cherchent des solutions à l'amiable, mais cela ne se termine pas toujours comme souhaité, déclare Désiré Bivégué, un éleveur.
Le bétail dévaste souvent les champs et nous nous asseyons avec les agriculteurs pour signer des compromis. Malheureusement, en tant qu'éleveurs, nous avons du mal à respecter les clauses, ce qui entraîne des conflits et parfois même des guerres.
Pour tenter de mettre fin à ce genre de problèmes, l'association des fermiers concessionnaires pour le développement a mis en place des espaces alloués aux éleveurs qui ont besoin des pâturages. Simon Bossiro est le coordonnateur national de la dite association.
Nous, nous sommes des fermiers concessionnaires. Nous avons de l'espace. Nous voulons qu'une fois déjà identifié ces éleveurs ou ces vaches en divagation qui n'ont pas de terre, et nous puissions avoir entre les deux parties une solution définitive. Soit nous les amenons à la location des terres pour leur bête, ou soit nous les amenons à un élevage intensif.
Mais pour l'association commune des éleveurs et agriculteurs du Nord Kivu, l'État devrait rendre à la population tous les pâturages communautaires déjà occupés par des particuliers, ce qui résoudra définitivement les conflits. Vincent Zilimois Gabo est membre du conseil d'administration de la Cogenoki.
Il faut rétablir le système de pâturage communautaire parce que chacun aura la place pour garder soit une vache ou deux, ou si vous en avez beaucoup, mais c'est communautaire. Donc, quel État octroie ou qu'il rétablisse les pâturages communautaires d'antan. Il y a le kibaya de Nyiragongo qui a été vendu au privé. Il y a le kibaya dans les territoires de Rutshuru qui a été aussi cédé au privé. C'est une entorse. Donc il faut rétablir ces pâturages communautaires à la population.
L'écrasante majorité de la population de Rutshuru et Nyiragongo vit de l'agriculture et de l'élevage, ce qui explique qu'une crise entre ces couches pourrait être grave et va briser l'atmosphère de paix qui a toujours régné entre ces communautés. Zanem Métizaïdi à Goma pour VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Goma sur 96.2 FM.
Le président américain Joe Biden se rend à Bruxelles et à Varsovie pour coordonner avec les alliés occidentaux la prochaine phase de l'aide militaire, économique et humanitaire à l'Ukraine. Patsy Ouida-Kouswara fait le point. Le récit est de Mohamedou Onfa.
Après bientôt un mois d'invasion de la Russie en Ukraine, la guerre continue et touche désormais Kiev, la capitale. Les bombardements russes ont détruit des bâtiments civils, dont un centre commercial. Cette semaine, les alliés occidentaux vont coordonner la prochaine phase d'assistance à l'Ukraine. Le président Joe Biden se rend en Europe pour assister à un sommet extraordinaire de l'OTAN. Il va rencontrer les dirigeants du G7 et ceux de l'Union européenne. Jake Sullivan, conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche.
Il se joindra à nos partenaires pour imposer de nouvelles sanctions à la Russie et renforcer les sanctions existantes et aussi s'assurer que les sanctions sont appliquées contre la Russie. Il travaillera avec les alliés sur des ajustements à plus long terme des positions des forces de l'OTAN sur le flanc Est. Il va annoncer une action commune pour renforcer la sécurité énergétique européenne et réduire enfin la dépendance de l'Europe vis-à-vis du gaz russe.
L'objectif est aussi de soutenir Volodymyr Zelensky, qui a engagé des négociations avec Moscou. Le président ukrainien a signalé qu'après un accord de cessez-le-feu, il est prêt à discuter du statut de la région orientale du Donbass, contrôlée par des séparatistes soutenus par la Russie, et de la Crimée, annexée par Moscou en 2014. Kiev est également disposé à renoncer aux demandes d'adhésion à l'OTAN en échange des garanties pour sa sécurité. Jonathan Cates, chercheur au German Marshall Fund, une institution américaine de politique publique qui vise à promouvoir les relations transatlantiques.
Ce que les alliés et leurs partenaires envisagent, ce qu'ils sont prêts à faire, c'est ce qui va être important. Il ne suffira pas à la Russie de retirer ses troupes. La Russie devra également payer pour la reconstruction, pour les dégâts causés à l'Ukraine.
Biden va aussi tenter d'aplanir les divergences entre les alliés de l'OTAN. Certains veulent fournir des armes offensives telles que des avions de combat et d'autres veulent éviter une escalade avec Moscou. Shin Monaghan, chercheur au Centre d'études stratégiques et internationales.
While a war in Ukraine is clearly awful.
La guerre en Ukraine est clairement horrible. Une guerre en Europe serait catastrophique. Et le rôle principal de l'OTAN est d'empêcher la Troisième Guerre mondiale. L'OTAN a donc un rôle à jouer pour revenir à l'essentiel, unir ses membres et dissuader la Russie de toute agression contre les nations européennes.
nations.
Biden va également annoncer une aide supplémentaire pour répondre au flux croissant de réfugiés, dont un grand nombre se trouve en Pologne. Il doit d'ailleurs rencontrer le président polonais Andrzej Duda. La Maison-Blanche n'a pas confirmé les informations selon lesquelles Joe Biden visiterait des camps de réfugiés pendant son séjour en Pologne, mais elle confirme qu'il ne va pas se rendre en Ukraine.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Joselle Morissin, Michel Père-Joseph, Georges Léonard Sagno et Lionel Nunamira Gahima. À la présentation, Eric Manirakiza. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations 24 heures sur 24, un seul site internet, voafrique.com. Sans oublier nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram, bien sûr. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes. Et à la prochaine.